confions dans notre esprit, Seigneur.
Amen. Amen.
À ta parole.
Amen.
Seigneur, nous te disons merci.
Amen.
Nous confions, Seigneur, celui qui va nous prêter le prédicateur.
Amen.
Aide-le, Seigneur Jésus.
Amen.
Remplis-le par ton Saint-Esprit.
Amen.
Utilise-le comme bon te semble.
Amen.
Afin de toucher ton peuple.
Amen.
Merci, Seigneur.
Amen. 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 Donc, ce matin, pour le deuxième message, nous continuons avec la construction du temple, de la maison de Dieu. Donc, dans le message précédent, nous avons vu comment les ennemis sont venus pour aider.
Je parlais que
mais quand Zorobabel et Josué ont dit non.
Amen.
Leur aide a changé. Et maintenant, ils se sont opposés. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Nous avons lu les versets, quelques versets. Mais ils ont écrit deux lettres au roi. C'était pas Cyrus. Vous vous souvenez que Cyrus, c'était lui le premier roi qui a décrété. N'est-ce pas, qui a décrété que le temple soit rebâti. Mais c'était, on peut dire, c'était son successeur. Ok, bon, je vous lis les noms, mais vous allez les oublier.
Mais,
Cambyses. Il est aussi, on l'appelle aussi Assuérus. Oui. Donc, on lui a écrit une lettre. Une deuxième lettre. Si vous lisez le chapitre 4 et 5, vous allez voir leur accusation.
Accusation.
Comment il présente, comment il décrive ses enfants d'Israël. Un peuple rebelle. Alors ils écrivent au roi. Si ils disent au roi de chercher dans les archives. Vous allez voir quel genre de peuple ils sont. Rebelles. Ils ont vraiment. Il y a eu des rois qui se sont levés. Pour, n'est-ce pas, pour gouverner, pour contrôler, pour s'occuper du territoire, rebelle. Amen. Et voilà pourquoi leur ville a été détruite. Alors, si vous leur permettez de continuer à rebâtir, vous allez perdre. Parce qu'ils ne vont pas vous payer le tribut, les impôts. Alors, méfiez-vous. Alors, le roi, apparemment, il a cherché dans les archives.
Est-il
et il a trouvé ces choses, n'est-ce pas? Et le roi a écrit aussi une lettre. Officiellement, arrêtant le travail de construction. Alors, le travail de restauration a été, s'est arrêté. Bon. Pendant le règne du roi suivant. Qui s'appelle Artaxerxes. Non, ça va, ça va. Un autre roi, je sais. C'est difficile de prononcer en anglais ou en français. Voilà. Bon, mais c'est à ce moment-là que Agé et Zacharie, deux prophètes, ils viennent pour encourager le peuple à reprendre le travail. Oui, mais si vous lisez Agé, nous avons lu le premier chapitre, mais pas le deuxième. Vous lisez Zacharie. Quoi, les 14 chapitres de Zacharie. Aucun des deux prophètes ne parle de la frustration de l'opposition. Mais dans Esdras, nous savons qu'il y avait de l'opposition. Mais pourquoi est-ce que Agé et Zacharie n'en parlent pas? Ils auraient dû en parler. Au moins, ils auraient dû le mentionner. Ils auraient pu dire, je sais que vous avez rencontré des obstacles. Le roi vous a empêché. Le roi a donné un décret. Et donc, vous vous êtes arrêté. Mais maintenant, prenez courage. Levez-vous. Mais nulle part, Agé ne reconnaît. C'est comme si ce détail, ou ce fait, n'est-ce pas, parce que c'est un fait, ce fait, la frustration, n'est pas le fardeau d'Agé et de Zacharie.
Les filles à Agabé, pour les Zacharie à Pâques-Bamenye, au Pâques-Bamenye,
Ça veut dire que l'opposition n'est pas le fardeau. Agé et Zacharie, leur fardeau, c'est que qu'est-ce que c'est que l'opposition, la frustration? C'est en vous, en nous. Qui est la vraie frustration? Ce n'est pas le roi. Ce n'est pas le gouvernement. Ce n'est pas l'opposition. C'est nous. C'est vous, n'est-ce pas? Le peuple. Alors, donc, leur parole est très directe. Très franche. Ah, au moins, ils auraient pu avoir un peu de miséricorde. Oh, vous avez souffert. Vous êtes faible. Vous êtes peu nombreux. Et ils étaient peu nombreux. N'est-ce pas? Ils étaient, vous savez combien sont retournés? Combien sont retournés à Jérusalem? Le chapitre 2 d'Esdras nous le dit. Nous n'avons pas lu à cause du temps. Il y a un message sur ça. Message 5 ou 6.
Pour nous courir.
Il y avait 49 000 897. Donc, presque 50,000 qui sont retournés. Un petit pourcentage. Parce que il y avait 2 millions, au moins 2 millions qui sont sortis de l'Égypte. N'est-ce pas? Il y avait quoi, 1000 ans, moins 1000 ans avant. Et sans doute, en captivité, ils étaient beaucoup plus nombreux. Et donc, seulement le reste, un petit pourcentage, est retourné. Donc, ils étaient faibles. Ils étaient peu nombreux. Ils n'avaient pas beaucoup. Et donc, pourquoi est-ce que Agé et Zacharie ont été sévères envers lui, envers le peuple? Parce que la frustration commence en nous. En nous-mêmes. La maison de Dieu n'est pas bâtie, pas à cause de l'opposition, mais à cause de nous. Et si vous voyez, si vous étudiez la chronologie, les dates, vous allez voir que les enfants d'Israël, ils ont traîné un peu. Ils ont traîné. Parce que le décret a été donné par Cyrus. N'est-ce pas? À peu près à 538 avant
Jésus-Christ.
Mais en 500, pendant la période du prochain roi, du roi suivant,
après Cyrus,
à peu près 10 ans ou même 14 ans plus tard, l'opposition a commencé. Donc l'opposition n'était pas la vraie raison. C'était le peuple lui-même. Ils ont traîné. Éventuellement, l'opposition est arrivée.
Et
ils se sont arrêtés. Pendant 2 ans. 2 ans d'arrêt. Et puis, ils ont repris. Après l'encouragement de Agé et de Zacharie. Et après avoir repris, ils ont terminé le temple en 2 ans, même moins. Donc, voyez. Donc, ce n'est pas l'opposition, mais c'est notre nature qui frustre Dieu. Pourquoi est-ce que la maison, l'église n'est pas bâtie? Parce que pourquoi est-ce que l'église n'avance pas? Ne blâmez pas, ne reprochez pas aux autres. La première reproche est à nous. C'est notre condition, notre attitude, notre manière de vivre. Donc, Agé touche plusieurs choses. Et sa parole est adressée aux dirigeants et aux sacrificateurs. Représenté par Zorobabel et Josué. N'est-ce pas? Dirigeant ou chef n'est-ce pas?
Et
sacrificateur. Ça veut dire que les sacrificateurs sont responsables. Ceux qui servent sont responsables. La parole est adressée à eux. Et donc à nous. Vous voulez, nous voulons nous consacrer au Seigneur. Cette parole est pour nous. Je dirais que tous ceux qui veulent suivre le Seigneur, cette parole est pour eux. Et Agé, hein, il est très direct. Il dit que vous dites que le temps n'est pas venu pour rebâtir. Ça, c'est l'excuse, n'est-ce pas? Ce n'est pas le temps. Ah oui, ce n'est pas le temps de rebâtir. Mais effectivement, c'est le temps de rebâtir. Le meilleur temps de rebâtir, c'est maintenant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre. Mais il faut résoudre ce qui doit être résolu tout de suite pour rebâtir. Mais le problème, c'est que leur manière de vivre était une vie, une autre vie. Alors, quand nous avons une autre manière de vivre, ce n'est jamais le temps de rebâtir. Parce que nous ne pouvons pas bâtir. Nos mains sont liées, nos pieds sont liés. Notre vie ne nous permet pas de rebâtir. Alors, nous nous justifions. Nous n'avons aucun intérêt. N'est-ce pas? Non, nous ne pouvons pas rebâtir. Alors, pour nous, ce n'est jamais le temps de rebâtir. Parce que je vis comme je veux vivre. N'est-ce pas? J'ai mes intérêts. Personnel. J'ai ma façon de vie planifiée. Je vis selon ma vie d'âme. Et je dis, ce n'est pas le temps de rebâtir. Il y a de l'opposition. Il y a des frustrations. Oui, nous voulons. On peut dire, nous voulons des frustrations. Des oppositions. Parce que comme ça, nous pouvons dire, je ne peux pas bâtir. Alors, donc, je suis libre. On ne peut pas. Parce que il y a ça. Voilà les raisons. Donc, c'est une excuse. Voyez, nous voulons être faibles. Il y a des frères qui disent, ah, je suis trop faible pour rompre une habitude. Je ne peux pas m'arrêter de boire. Oui, je suis accro. Ou je ne peux pas m'arrêter de courir après les femmes. C'est ma disposition. Oui, mais souvent, nous aimons notre disposition. Nous voulons caresser, n'est-ce pas? Ah oui, c'est. On veut qu'on nous qu'on nous caresse. Oui, ça va, c'est, oui, je sais que tu es faible. Tu ne peux rien faire. Attends, on veut, n'est-ce pas, on veut qu'on soit sympathique envers nous. Et nous sommes, n'est-ce pas, nous sommes les plus sympathiques envers nous-mêmes. N'est-ce pas, nous nous traitons très très doucement. Je suis trop faible pour venir à la réunion. Voilà, n'est-ce pas, nous, nous, nous nourrissons notre faiblesse. Et puis, nous, nous donnons d'autres, des excuses. Je ne peux pas servir le Seigneur à cause de ma femme. Ma femme m'empêche. Ah, oui, elle n'est pas pour le Seigneur comme moi. Elle veut que je reste à la maison. Elle veut que je l'aide au foyer. Elle se plaint toujours que je ne l'aide pas. Alors, je ne viens pas à la réunion. Je ne peux pas servir le Seigneur. Oui, mais ta femme n'a jamais dit ça. Oui, elle a dit que vous ne l'aidez pas au foyer. Mais elle n'a jamais dit que il faut pas servir l'église. Mais est-ce que vous voulez vraiment servir l'église? Ou est-ce que vous utilisez votre femme comme une excuse de ne pas servir l'église? Non, rien ne nous empêche de servir l'église que nous-mêmes, sauf nous-mêmes. Nous, c'est nous sommes l'empêchement, l'obstacle. Et nous passons convenablement, n'est-ce pas, nous passons la responsabilité aux autres. Pour dire, ce n'est pas le temps maintenant de bâtir. Donc, Agé dit, vous semez. N'est-ce pas? Vous semez quelque chose. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il dit? Je lis le verset. Vous semez beaucoup. Verset 6. Vous semez beaucoup. Et donc, ce matin, ça c'est notre fardeau. Qu'est-ce que nous semons? Dans notre vie, qu'est-ce que nous semons? Notre vie est une vie de semences. Nous semons quelque chose. Même si vous ne faites rien, vous semez quelque chose. Ah. Tout ce que nous faisons, c'est une semence. Galates, on n'a pas lu les versets, mais Galates chapitre 6, versets 7 et 8. Bon, je vous lis les versets. Okay. Voilà les versets qui sont très pertinents. Galates chapitre 6, versets 7 et 8. Ne vous y trompez pas. J'attends que vous. Oui, oui, ok. Ok, pardon. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Et puis le verset 8. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Donc, il y a deux sortes de semences.
Donc, nous allons faire
il y a la semence pour la chair. Et il y a la semence pour l'esprit. Il n'y a que deux semences. Soit pour la chair, soit pour l'esprit. Il n'y a que deux manières de vivre. Pour la chair, pour l'esprit. Et il n'y a que deux récoltes, deux moissons. N'est-ce pas? De la chair et de l'esprit, de la corruption, de la vie éternelle. Vous ne pouvez pas avoir les deux. Non, ça c'est... Oui, ce serait bien. Ce serait bien d'avoir les deux. Mais ça ne marche pas comme ça. N'est-ce pas? Biologiquement et spirituellement, n'est-ce pas? Une semence produit une certaine récolte. Et si vous voulez une autre récolte, il faut trouver une autre semence.
Voilà,
c'est simple. Donc, lequel, laquelle est-ce que nous semons? Quelle semence est-ce que nous semons? Ce n'est pas les autres. Ce n'est pas l'opposition. C'est nous-mêmes. Nous semons quelque chose. Et soit cette semence va bâtir l'église, ou bien elle va... Oui, elle va nous bâtir. N'est-ce pas? Pour nous corrompre. Pour produire de la corruption. Et donc, ceux qui, si nous semons à la chair, n'est-ce pas, pour la chair, et nous essayons d'utiliser ça pour l'église, nous allons corrompre l'église. L'église sera corrompue. Voilà pourquoi Paul parle dans 1
Corinthiens.
Ceux qui bâtissent avec du bois. Quoi? Oui, de la paille. Et il y a troisième. Du foin. Oui, du foin. Du bois, du foin et de la paille. Oui. Ça, c'est la semence. N'est-ce pas? Et ils ils utilisent ça. Ils se servent de ça pour bâtir l'église. Tout ça sera exposé. Un jour. Et brûlé. Doit passer par le feu. Pour être brûlé, consumé. Donc, qu'est-ce que nous voulons semer? C'est ça. Ce n'est pas même qu'est-ce que nous voulons construire. La construction, le bâtissement provient de la semence. Ah, ne vous faites pas. Ne vous faites pas de la construction. Il y en a beaucoup qui veulent. Ah, je veux construire l'église. Ah, j'ai beaucoup d'opinions. On a beaucoup d'opinions. Comment l'église doit être bâtie? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, il faut faire ça. Il faut pas faire ça. Ou tel frère, il est comme ça. Ah, ben il doit être comme ça. Il faut changer. Changer les anciens. Changer les serviteurs. Renverser les choses. N'est-ce pas? Moi, j'ai mon point de vue. Comment l'église doit marcher? Mais la question c'est, qu'est-ce que vous semez? À quoi est-ce que vous vous donnez? Quelle est votre origine? Quelle est votre source? Avec quoi est-ce que vous commencez? N'est-ce pas? Qu'est-ce que vous... En quoi est-ce que vous vous investissez? C'est ça qui va soit bâtir l'église, soit corrompre l'église. Donc, agir, n'est-ce pas? Il est direct. Il dit, oui, vous semez beaucoup. Et vous recueillez peu. Vous mangez, vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez, vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes vêtu, vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Le salaire de celui... Ah, ça veut dire que vous faites beaucoup de choses, mais vous n'êtes pas satisfait. Vous vivez d'une certaine manière, mais vous ne gardez pas, vous n'êtes pas satisfait. Et ça, c'est la conséquence d'une vie, n'est-ce pas, qui n'est pas selon Dieu. Vous voulez toujours quelque chose de plus. Ça, c'est le péché. Le péché qui ne... Pourquoi est-ce que nous péchons? Pourquoi est-ce que nous sommes infidèles? Parce que pourquoi est-ce que, n'est-ce pas, beaucoup de jeunes, ils sortent avec quelqu'un, une fille, un jour, une semaine, un mois, puis ils laissent tomber, cherchent quelqu'un d'autre. Ils ne sont pas satisfaits. Ils cherchent, ils s'aiment. Mais quoi? Ils récoltent quelque chose. Mais ils ne sont pas satisfaits. Alors ils laissent tomber. Ils cherchent ailleurs. N'est-ce pas? Ah, le 14 février. Le jour de Saint, la fête de Saint-Valentin. J'étais ici. On est sorti à... Où?
Glaston.
À la maison. Oui. Oui, on a vu beaucoup de jeunes. Et je me demandais, parce que même j'avais oublié que c'était le 14 février. Je me demandais, mais pourquoi est-ce que il y a tant, tous les bars ou tous les restaurants en plein air étaient pleins. C'est pas, tout le monde était là. Et normalement, quand vous sortez dans la nuit, vous ne voyez pas les restaurants comme ça.
Et
les jeunes, n'est-ce pas, en motocyclette. Le garçon, n'est-ce pas, voilà. Et la fille derrière. Non, mais c'est pareil aux États-Unis aussi. C'est, voilà. Les garçons aiment, n'est-ce pas, se démontrer macho.
Tout le monde avait adoré.
N'est-ce pas? Et puis la motocyclette s'avance subitement. Et la fille qui, n'est-ce pas, qui se penche parce que autrement elle va tomber. Voilà. Ça se sent. Mais tu me disais, mais pourquoi? Ah oui, c'est Saint-Valentin.
Et partout, bien habillé.
Oh, bien, bien habillé. Hein? Ah, oh, rouge, oui. Voilà. Ça, c'est... N'est-ce pas? C'est une semence. On sème quelque chose. On veut se satisfaire. Mais je me demande, n'est-ce pas, là, la fille ou le garçon, n'est-ce pas, qui était là, ce jour-là, dans un mois, dans 6 mois, où sera-t-il? Peut-être sur une autre motocyclette. Avec quelqu'un d'autre. Parce que on n'est jamais satisfait. On sème, on gagne quelque chose. On le met dans un sac ou dans une poche. Mais le sac est percé. Alors, ça tombe. Gaspillé. Vous n'avez rien. Alors, vous cherchez quelque chose d'autre. Et c'est pareil dans chaque domaine de la vie. On n'a jamais suffisamment. On n'a jamais assez. Parce que quand on en a. Quand on a quelque chose, même le niveau de vie augmente. Ah oui, parce que quand vous avez un peu plus d'argent, vous voulez, n'est-ce pas, vous présenter d'une certaine manière. Vous allez vivre selon ce que vous avez. Ce n'est pas le contraire.
Ce n'est
pas que nous avons, n'est-ce pas, ce que nous avons, c'est selon la façon dont nous vivons. Non, parce que j'ai quelque chose. Je vais vivre selon ce que j'ai.
Vous
voyez, la logique est fautive. Ah, si je gagne un peu plus, je me présente d'une certaine manière. Maintenant, je dois acheter quelque chose de plus. Je dois me montrer, n'est-ce pas, à mes copains, à mes amis. Je suis un homme de moyens, de ressources. Je ne suis pas comme j'étais, comme vous me voyez il y a un an. Je suis différent. Vous voyez, c'est l'orgueil, la vanité, la vanité du monde. Mais nous y entrons volontiers. Nous sommes amenés, n'est-ce pas, comme une feuille dans le courant d'un fleuve. Nous vivons comme le reste, comme les autres. Est-ce que nous avons la pensée? Si le Seigneur m'a donné quelque chose de plus,
Non,
si j'ai gagné quelque chose de plus, d'où est-ce que ça est arrivé? Quelle est la source? Non, moi j'ai gagné. J'ai travaillé ou j'ai gagné quelque chose. N'est-ce pas? C'est moi, c'est à moi. Alors, moi, j'ai le droit de l'utiliser. Comme je veux. Nous semons quelque chose. N'est-ce pas? Mais est-ce que nous avons jamais la pensée? Même la question. D'où est venu cet argent? Quelle est l'origine? Et si, par miracle, le Seigneur ouvre nos yeux pour nous faire voir que c'est lui qui nous a fourni quelque chose, est-ce que nous avons même la pensée, l'idée que cela appartient au Seigneur? Ah, même juste avoir cette réalisation, nous allons changer, nous changeons notre vie. Juste nous rendre compte que le Seigneur me l'a donné. Le travail que j'ai, les moyens que j'ai, c'est le Seigneur qui m'a béni. Ça va changer notre vie. Je n'ai pas le droit de m'en servir comme je veux, mais cela appartient au Seigneur. Donc le Seigneur, il est très ironique. Il est très sarcastique. C'est le même mot. Il est très drôle. Il est très ironique. Drôle. Oui.
Et lui, Macedomena. Elle est nouveau blanc, voilà, nouveau.
Il dit, vous comptiez sur beaucoup. Et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous. Et j'ai soufflé dessus.
Vous
voyez, le Seigneur, Dieu a un sens d'humour.
Elle a
Ah, vous comptiez, n'est-ce pas, comme l'insensé dans Luc, chapitre
12.
Il a dit, ah, moi, je vais détruire mes greniers. Et en construire d'autres. Parce que j'ai tant de richesses. Où les mettre? Dans des greniers plus grands. Puis le Seigneur est venu ce soir, cette même nuit, pour dire insensé, cette nuit, on te demande ton âme. Puis à qui appartiendra? À qui appartiendront toutes ces richesses? Ah, toi tu disais, ah, il a dit, n'est-ce pas? Oh, j'ai beaucoup accumulé, beaucoup amassé. Maintenant, je peux quoi? Manger, je peux boire, je peux m'amuser, n'est-ce pas? Toute ma vie. Il comptait sur ça. Mais le Seigneur est venu. Souffler. C'est comme une tour de paille. Elle est tombée. Voilà. Tout ce que tu as amassé, tu as accumulé, tu as bâti. Il suffit que le Seigneur donne un souffle pour que tous tombent, pour nous faire voir. ce que nous sommions. N'est-ce pas? Nous sommions pour la chair. Donc, le Seigneur vient à travers les prophètes. N'est-ce pas? Pour réveiller l'esprit. Réveiller l'esprit de Zorobabel, de Josué, pour se réveiller. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Comment est-ce que nous vivons? Je gaspille ma vie. Chaque jour, je vis comme je veux. Et tout ce que je gagne, tout ce que j'obtiens, ça tombe. Même j'essaie de faire entrer ça dans l'église. J'essaie de par ce que moi j'ai fait. Ce que moi j'ai semé, j'ai le droit de contribuer à l'église. Mon opinion compte. Mon vote compte. Non, dans l'église, on ne vote jamais. Il n'y a pas d'électorat. C'est pas tous ceux qui sont pour ça ou ça lever la main. Non. Non. Les opinions, toutes les opinions dans l'église, oui, nous les avons. Mais nous devons nous rendre compte. D'abord, qu'est-ce que je sème? Qu'est-ce que nous semons? Quelle est la source? Quelle est la source de mon opinion? Quelle sorte de vie est-ce que moi je vis devant le Seigneur? Même avant de proposer une opinion, je dois aller au Seigneur pour lui demander. Être dans sa lumière. Quelle sorte de vie est-ce que je vis? Si j'ai une double vie, je n'ai pas le droit de même m'exprimer. Exprimer mon opinion. Ça, c'est si je fais ça, je sème pour la chair. Et je fais entrer, j'amène de la corruption. Je récolte de la corruption. Je corromps l'église. Par mon opinion. Si j'ai un souci, je dois être devant le Seigneur pour qu'il m'examine. Et puis, oui, je peux aller auprès des anciens, auprès de, n'est-ce pas, des frères responsables, pour exprimer mon souci. Mais comment est-ce que je le fais? Ça dépend de la nature, la façon dont je sème. Je peux semer soit la division ou bien je sème l'unité. Mon opinion ou ma contribution soit peut édifier, unir, ou bien elle peut diviser. Surtout si j'en parle ou je fais des commérages ailleurs. Non, l'église n'est pas un lieu de faire des commérages, de s'exprimer, exprimer telle ou telle opinion. L'église est un lieu saint. Nous devons être sanctifiés. Mon opinion doit être tout ce que je Ma vie doit être sanctifiée. C'est de cette sorte de vie sanctifiée que le Seigneur peut me donner quelque chose. Un souci, un fardeau, une proposition que je peux communier. Mais quelle est l'origine? Ça dépend de notre semence. Alors, nous devons être nous purifier. N'est-ce pas? Autrement, l'église devient un lieu de exprimer ses intérêts personnels. Je veux que l'église prenne cette direction. Mais est-ce que c'est vraiment un souci pour l'église? Ou un souci pour satisfaire nos intérêts personnels?
Vous
voyez, l'homme est très... Nous sommes impurs. Nous sommes impurs. Même dans nos intentions les plus pures, il y a un peu d'impureté. Je veux quelque chose pour moi-même, pour me faire avancer. Et même nous ne sommes pas conscients. Mais en nous, il y a cette nature.
Non, mais il y a les miens.
N'est-ce pas? Qui sort.
Et
qui s'exprime. Et si nous semons à ça, si nous semons à notre nature, il y aura quelque chose qui va s'exprimer. Et ça, ce n'est pas pour l'édification de l'église. Alors, donc, Agé et
Zacharie,
ils encouragent. Ils poussent même. Ils disent à Zorobabel,
Josué.
Quoi? Ils disent montez sur la montagne.
Non. Toi, dis.
Avant, considérez attentivement vos voies.
Considérez.
Ça veut dire examinez-vous. Examinez-vous. Oui. Vos voies, Zorobabel et Josué.
Il y a pas moi.
Donc, ils étaient, n'est-ce pas, des frères très très donnés, consacrés. Alors, plus nous sommes consacrés au Seigneur, plus le Seigneur va nous parler.
Amen.
Ah, pour nous purifier. Donc, ça veut dire que le Seigneur, il ne nous a pas abandonnés. N'est-ce pas? Quand il nous parle, ça veut dire qu'il nous aime. Et il veut que nous croissions, que nous avancions. Donc, considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne. Apportez du bois. Ça veut dire... Quittez là où vous êtes. Quittez votre lieu de confort. Là où vous aimez rester. Dans votre faiblesse. Dans votre manière de vivre. N'est-ce pas? Dans votre contentement. Mais montez, sortez.
Vous
voyez, on a parlé de la séparation. On a parlé de la division, n'est-ce pas, du monde. Montez, ça veut dire vous allez en haut. Ça veut dire que vous quittez le lieu terrestre. Votre demeure terrestre. Tout ce qui vous lie sur la terre. Les rapports, les liens terrestres. Les habitudes terrestres. Toutes les frustrations terrestres. En nous. Pour monter. Ça veut dire pour lever les yeux à Dieu. Prendre la voix de Dieu. Et apporter du bois. Ça veut dire que pas avec les mains vides. Mais avec quelque chose. Ah. Donc, je viens au Seigneur avec quelque chose, avec du bois, pour bâtir la maison. Donc, mes mains doivent être purifiées pour que je puisse apporter quelque chose. Je dois avoir les mains pures. À ce moment-là, ce que j'apporte pourra édifier. Sinon, ça va corrompre. Donc, Agé et Zacharie ils ont parlé directement. Vous montez. Vous apportez. Offrez quelque chose à Dieu. Mais ce n'est pas votre offrande. Mais c'est l'offrande de Dieu. C'est l'offrande, c'est ce que Dieu a fait en nous, en vous. C'est ce que Dieu a œuvré en vous. C'est ça que vous offrez. Ah, ce n'est pas pour dire, ah, Dieu, voilà, je viens. Et je vous donne quelque chose. Non. Ça, c'est le pharisien. Dans Luc. Seigneur, je suis content que je ne sois pas comme cet homme-là. Ah, je fais ça, je jeûne. Je donne quoi? Un dîme de toutes mes possessions. Je ne suis pas adultère comme cet homme-là. Vous voyez, ça c'était son offrande. Il est venu à Dieu avec une offrande. C'était sa semence. Il a semé quelque chose. Mais Dieu ne l'a pas accepté. Tandis que le publicain, il n'avait rien. Il est venu au Seigneur avec les mains vides. Mais il s'est purifié. Parce qu'il s'est repenti. Alors, et donc, sa prière est devenue une offrande. Sa personne était une offrande. Parce qu'il n'avait rien dans ses mains. Rien de lui-même. Donc, allez sur la montagne, montez. Apportez du bois. Mais purifié, sanctifié, séparé, avec une offrande. provenant de Dieu lui-même. Ce que Dieu a œuvré en nous. Ce que Dieu nous a fait en nous. Nous avons répondu à Dieu. Dieu nous dit, rompez ça, brisez ça. Arrêtez de faire ça. Oui, Seigneur, je t'obéis. Seigneur, aide-moi. Seigneur, je veux commencer. À ce moment-là, nous avons une offrande. Ce n'est pas que je viens offrir. Maintenant, je vais offrir. Non. Le Seigneur, il a suffisamment. Toutes les offrandes, il les a déjà. C'est lui qui nous a donné tout ce que nous voulons lui offrir. Donc, le Seigneur n'a pas besoin de nos richesses. Il n'a pas besoin de nos efforts. De notre semence. Non. Il a besoin seulement de lui-même. De ce qu'il peut faire en nous doit correspondre à lui. Donc, David, vous vous souvenez? David, il a décidé de bâtir une maison pour Dieu. Nous avons touché ça il y a quelques jours. Et Dieu était étonné. Qui lui a dit que je voulais une demeure? Mais puis Dieu a dit. Il est dit à David. Tu veux me bâtir une maison? Moi, je vais te bâtir une maison. Je me bâtirai en toi. Tu veux faire quelque chose pour moi? Je ferai quelque chose en toi. Celui qui sortira de toi, ta postérité, n'est-ce pas? Son trône sera quoi? Pour toujours. Salomon?
Salomon.
Non, Christ. Christ, Jésus-Christ.
Jésus-Christ.
Salomon n'est pas resté pour toujours.
Salomon était bien.
Oui, il est resté là et puis il a chuté. N'est-ce pas? Il a semé quelque chose et il a récolté. Mais ce que Dieu a fait, a bâti en David, la récolte, c'était
Christ.
Et Christ qui bâtit l'église. C'est Christ qui construit l'église. C'est Christ qui est le matériel. Pas David.
Mais David.
Pas Salomon.
Mais Salomon.
Non, c'est Christ. Et donc, pour revenir, n'est-ce pas? À qui appartient l'église? Elle appartient à Christ. Et donc, tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous pouvons offrir, doit être le Christ en nous. Œuvrer en nous. N'est-ce pas? Préparer en nous pour être une récolte. Donc, semons à Christ. Nous devons semer pour Christ. Pour la vie, quoi? Pour l'esprit. Semer pour l'esprit. Chercher l'esprit, toucher l'esprit. C'est l'esprit qui va nous permettre
de mon ami
de changer notre vie, notre manière de vivre. Quand vous touchez l'esprit, vous vous séparez du monde. Vous vous séparez des vices qui nous Ah, qui nous traîne. Vous vous séparez d'une manière, d'une certaine manière de vivre. C'est l'esprit qui nous a franchis. N'est-ce pas, Paul le dit, n'est-ce pas, dans Romains.
Paul le dit,
la loi de l'esprit, n'est-ce pas, de vie, de... m'a affranchi.
Et cela peut...
Du péché et de la mort. Touchons l'esprit. Oui. Semons pour l'esprit. Ça veut dire que dans toute chose, dans chaque aspect de ma vie journalière, je dois toucher l'esprit. Avec ma femme, mon rapport avec ma femme, je dois toucher l'esprit. Je dois semer pour l'esprit. Quand je vis ma vie au service, et quand il y a la tentation de profiter, de profiter de mon patron, de profiter de l'entreprise pour avoir quelque chose pour moi-même, je dois toucher l'esprit. L'esprit doit être là. C'est l'esprit, n'est-ce pas, qui va terminer ce désir.
Non,
Seigneur, je suis un employé. Et je sers, n'est-ce pas, ici dans cette entreprise. Fidèlement. Mais c'est toi que je sers. Alors, tout ce que je fais est pour toi. Comme Paul le dit. N'est-ce pas? Servez vos maîtres comme si vous serviez le Seigneur. Ça veut dire que nos yeux sont sur le Seigneur. Notre vie journalière est centrée sur le Seigneur. Donc nous n'osons même pas nous dévier, nous détourner. N'est-ce pas? Mais là, quand il y a les tentations, nous cherchons le Seigneur. Seigneur, et nous cherchons aussi les frères dans la vie, ou les sœurs dans la vie de l'Église, pour nous soutenir. Voyez, voilà des moyens pratiques de semer. Vous êtes tenté? Une ancienne connaissance vous téléphone? Et vous vous revoir. Et vous êtes faible. Vous n'avez aucune puissance. C'est bien. Appelez le téléphone ou sur le cellulaire. Téléphonez à un frère pour prier. Ou juste pour dire, frère, j'ai besoin de toi. Aide-moi. Et priez un peu. Vous ne savez pas comment ça, c'est un salut. Quand un frère prie avec vous. Vous êtes faible. Oui. Et ne combattez pas seul. Vous combattez avec les autres frères dans la vie de l'Église. Vous revêtez de toute l'armure de Dieu.
Non,
vous n'êtes pas seul. Vous ne pouvez pas vous revêtir tout seul. Impossible. Nous avons besoin des uns des autres pour nous sauver, pour nous purifier. pour que nous puissions semer la bonne semence pour la vie éternelle. Mais ce n'est pas quelque chose de magique. C'est très pratique.
Amen.
Attachez-vous aux frères. Les frères et les sœurs sont notre salut. N'essayez pas de remporter la victoire tout seul. Non.
Ça,
le Seigneur nous a placés ensemble pour être son vrai témoignage. Donc, réveillons-nous.
Amen.
Un esprit réveillé.
Amen.
Et pour nous lever. Pour monter. Apporter du bois pour bâtir la maison de Dieu. Amen. Ensemble.
Amen.
Pas seul. Amen.
Amen.
Amen.